Interview.
Michel Gentil sur RDOA, bonjour.
Bonjour.
107.5 FM et www.rdwa.fr, une six-corde pour nous amener à cette nouvelle interview en ta compagnie, Michel.
Une six-corde, avec un capot partiel.
Oui.
Qui barre juste trois cordes et non pas six. Et qui, ça donne, c'est une invention qui date de quelques années maintenant et qui donne des possibilités supplémentaires sur le plan technique à la guitare. Je pense que pour le coup, ce n'est pas un gadget. Il y a des techniques qui se développent là autour de ce capot partiel.
Et qui donc renforce le côté disharmonique.
Disharmonique.
Non, mais c'était là. Alors ça, c'est pour ceux qui suivent. Parce peut-être. Que Michel, quand même, ça fait quelques fois que tu viens chez nous. Et puis, on avait parlé dans les précédentes interviews de tout un tas de techniques et de cette notion de disharmonie qui, en fait, n'en est pas.
Dans ce sens-là, voilà. Ça, absolument, je comprends. Oui.
C'est-à-dire que tu joues sur trois cordes qui sont accordées de telle manière, puis trois autres
un peu différemment, et je suis entre les deux. La disharmonie, dans le sens où tu l'entends, elle est absolument nécessaire. C'est-à-dire que, en fait, c'est la notion de mathématiques là qu'on aborde en musique, voilà. À savoir qu'il n'existe pas de musicien qui ne soit pas un excellent mathématicien. Simplement, ils ne le savent pas toujours eux-mêmes. Et en France, là-dessus, on a une mentalité qui est quand même un peu très en deçà de la réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, effectivement, c'est impossible de faire de la musique sans avoir une notion de ce qu'on pourrait appeler l'harmonie, c'est-à-dire les choses qui sont fluides entre elles. Et cette harmonie-là, elle a besoin d'une symétrie, qui n'est pas parfaite. Si elle est parfaite, c'est la mort. Et pour continuer la vie, il faut que cette symétrie soit légèrement dissymétrique. Et c'est là qu'on est, c'est ce petit espace qui représente la vie en réalité, qui continue le mouvement et la vie. Donc pour qu'il y ait mouvement, il ne faut pas que ce soit un cercle fermé. Il faut que ça puisse s'ouvrir de plus en plus. Alors là, on peut penser à la spirale, par exemple. Il faut un mouvement. Le mouvement, il est dû à cette légère dissymétrie. Je ne sais pas si je m'explique bien.
Si.
Mais en fait, voilà, c'est ça.
Et c'est ce dont on parlait déjà dans les précédentes interviews, cette opposition qu'il y a avec de la musique un peu trop écrite, des accords stables.
C'est vrai. Il y a moyen de s'exprimer à travers toutes les façons de faire de la musique, mais il y a des techniques qui sont plus faciles que d'autres et d'autres chemins qui rendent l'expression de la créativité, de la spontanéité plus, plus difficile. Non pas impossible, mais difficile, c'est vrai.
Est-ce que Mozart a fait de la musique morte alors ?
Oh, je crois pas du tout, non. Non, non, mais lui, c'était un grand vivant, c'était un bon vivant, c'était un type génial. Il a vraiment cassé des codes à l'époque, inventé les siens. Et... Non, non, c'était quelqu'un d'extrêmement vivant, au contraire. D'ailleurs, il n'était pas toujours très, très bien perçu hein, de son temps. Il a eu des difficultés, on en a entendu parler. Donc, non, effectivement, de toute manière... C'est un peu le rôle des créatifs, d'une manière générale, dans une société. On est tous créatifs et certains développent à fond leur créativité, d'autres pas du tout. Dommage, parce qu'on a tous ces capacités artistiques, c'est évident. Quelqu'un qui va créer, on en parlait tout à l'heure, qui va inventer quelque chose de nouveau, c'est évident qu'il est un peu rugueux au début pour les gens qui l'écoutent. C'est pas très facile. On entend quelque chose de nouveau. Ça nous est pas évident à l'oreille. Ça nous devient évident que lorsque cette chose-là, on l'a entendue souvent. Et c'est comme ça que l'oreille aussi évolue dans le temps. Même l'oreille sociale, l'oreille de la société. C'est-à-dire qu'il y a simplement un siècle et demi, on ne pouvait pas entendre des accords qui faisaient plus que trois notes. C'était difficile. Trois, quatre notes à la rigueur. Aujourd'hui, à l'époque, une minorité de gens étaient capables d'entendre ça. Cette minorité, c'était les créatifs. C'était les gens qui cherchaient de ce côté-là, qui avaient vraiment travaillé leur oreille là-dessus. Évidemment que leurs contemporains, ils n'entendaient pas ça terrible. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toutes ces histoires dont on entend parler, de premières qui sont données dans une grande salle. Et puis, le public qui n'est pas content du tout, ça ne fonctionne pas. Normal, des fois c'est mauvais, ça peut arriver. Hein. Mais quand c'est bon, ça peut être extrêmement bon et créatif et nouveau. Et ce côté nouveau est difficile pour nos oreilles, c'est normal. Il nous faut le temps de nous mettre dedans. Donc il y a un côté comme ça que les créatifs sont sur la rugosité. La majorité des gens entendent des accords à 3, 4 sons sans difficulté. Mais si vous allez en Inde où ils ont moins l'habitude, ils n'entendent pas. Donc l'oreille, elle évolue avec le temps. Et elle évolue même assez vite finalement, je trouve. Puisque maintenant, on entend vraiment plus facilement, beaucoup plus facilement qu'avant, des accords à 4 sons, à 4 notes différentes.
Et défends-tu l'idée que, puisqu'on parle des artistes et que tout le monde est un artiste, oui. que l'artiste travaille avant tout pour lui-même et pas forcément pour les autres ?
Alors ça, c'est une question qui à mon avis...
Cherche pour lui, quoi. On va pas parler de travail, mais...
Oui, c'est vrai. Mais bien sûr, comment dire ? C'est une fausse question, parce qu'en fait, on cherche pour nous-mêmes à fond, et nous-mêmes, nous sommes l'univers. Notre cerveau a la complexité de l'univers. Enfin, quelque chose du même ordre, enfin, je parle un peu légèrement là, mais on cherche pour nous-mêmes, mais on est dans le monde. Et on est tellement dans le monde que, évidemment, ça résonne autour. Donc, on cherche pour nous-mêmes et on cherche pour les autres en même temps. La démarche, elle n'est pas incompatible. Ça n'est pas égoïste que de chercher tout seul. J'avais une remarque souvent, comme j'ai beaucoup joué seul sur ma guitare. C'est d'ailleurs ma ligne de vie de musicien. C'est-à-dire que je joue avec des tas de gens différents, de cultures différentes, du Tibet à l'Afrique en passant par les États-Unis.
Et la Russie.
Et la Russie aussi, ouais. Tout me plaît. Enfin, au fur et à mesure que je découvre les musiques, justement que mon oreille s'améliore pour être capable d'entendre mieux la musique du Tibet ou la musique de l'Inde, la musique d'Afrique, je peux m'amuser avec des musiciens et faire quelque chose qui tienne un peu la route avec des musiciens de cultures différentes. Mais ma ligne de conduite a été de jouer quand même seul. Je joue beaucoup seul. Et on me l'a reproché parfois. On m'a dit, mais finalement, tu joues pour toi. Tu joues comme un égoïste alors. Et non, c'est pas l'égoïsme. C'est comme, comment dire, si on veut rendre service à quelqu'un, il faut d'abord penser à soi. Si on n'est pas suffisamment bon, suffisamment costaud, suffisamment gay, pour donner de l'envie, pour donner de l'amour
à la force,
il faut qu'on soit fort. Donc il n'y a rien d'égoïste à se rendre fort à ce moment-là. Ça, c'est une première chose. Il n'y a rien d'égoïste à vouloir être fort, à se travailler soi-même, parce que c'est seulement comme ça qu'on pourra mieux donner aux autres. Donc ça, c'est une chose. Et puis aussi, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on intériorise, il peut y avoir des musiciens ou des artistes qui ont des démarches très personnelles, très intériorisées. Mais plus on intériorise, plus on élargit son univers aussi. Il n'y a pas de contradiction avec ça, puisque notre intérieur représente aussi l'univers. Alors, il y a des gens qui sont peut-être trop centrés sur eux dans leur vie, mais ça, c'est tout à fait un autre phénomène. Ce que je veux dire, c'est que si vous tombez sur un musicien qui va vraiment être complètement dans sa musique, il est dans son univers, en réalité, c'est rarement son univers, c'est l'univers de tout le monde. Les idées, elles courent, elles sont là, elles sont dans le monde. Et à un moment donné, quelqu'un qui cherche va trouver des idées qui correspondent à d'autres gens aussi. Même s'il est tout seul dans son univers, en fait, il n'est pas seul. Bon, après, il y a des cas extrêmes, bien sûr, mais passons ces cas extrêmes-là. Mais je pense qu'il n'y a pas du tout de contradiction à travailler soi à fond, à se travailler soi-même pour pouvoir mieux donner aux autres. Non, les deux vont de pair en réalité. Si on ne pense qu'aux autres, on se perd nous-mêmes et on perd notre capacité d'aider. Et si on ne pense qu'à nous, si on s'enferme dans sa maison, alors à ce moment-là, effectivement, on s'isole de l'univers. Normalement, ce n'est pas le cas de l'artiste qui est là, qui a une pulsion, il ne sait pas trop pourquoi, comment, d'où ça vient. Il n'en est pas forcément toujours très conscient, mais il a une envie, il a une énergie de chercher dans un truc qui ne va absolument pas intéresser quelques autres personnes autour de lui sur le coup. Mais en cherchant, en fouillant et en triturant tout ça, au bout d'un moment, il va arriver à un résultat qui va effectivement concerner tout le monde, je pense.
On peut parler encore une fois des précédentes interviews que tu as fait. Il y a quand même une idée ou un résultat qui peut-être pourrait intéresser beaucoup de gens, c'est cette méthode guitare 12 cordes. Oui. Alors où ça en est là?
Ça y est, elle est sortie.
Rappelle, mais
elle est sortie. Bah, ça se passe pas trop mal. C'est-à-dire que j'en ai vendu quand même pas si mal pour la France. Cela dit, j'ai pas fini de chercher. Et là, je lance la méthode anglaise. Là, ces jours-ci, j'en avais parlé l'autre fois, ça a traîné un peu. Alors, j'ai pas pour l'instant de distributeur. Et je compte sur mes propres forces, entre guillemets, par l'Internet, puisque j'ai cette chance, en fait, que cette méthode-là soit la toute première à exister dans le monde. J'ai peut-être une petite chance de pouvoir toucher tous les gens qui s'intéressent à la guitare 12 cordes, que ce soit des Chinois, des Japonais ou des Américains, puisque c'est le plus gros boulot qui a été fait là dans le domaine. Maintenant, la difficulté, c'est d'arriver à les toucher vraiment. C'est-à-dire que lorsqu'ils tapent sur leur ordinateur « méthode guitare 12 cordes » ou « 12-string guitar method », ils tombent sur mon site. Et ça, c'est pas joué. Parce que là, je suis en concurrence avec Coca-Cola et les plus grosses boîtes du monde, puisqu'il y a une question de référencement dans les sites. Et
tu veux dire que Coca-Cola écrit 12-string guitar aussi, non, histoire d'être sûr d'avoir tout le monde, même celui qui cherche.
Non, ce que je veux dire, c'est que pour arriver à ce qu'on tombe sur mon site quand on tape 12-string guitar, il faudrait que j'ai quelqu'un qui travaille pour moi sur le paramétrage de mon site.
Et que c'est tu payes Google, etc.
Que je paye Google, que je paye, etc. Il y a des mots-clés qui se vendent le prix d'un immeuble.
Oui.
Donc c'est pour ça, je pense à Coca-Cola, j'ai dit je peux rien faire là, j'ai aucune, je n'existe pas forcément. Donc je ne sais pas si ça va fonctionner, j'espère, j'essaye. Et puis ma foi, je m'adresse quand même à des éditeurs, si je peux en trouver, je serai content, bien sûr.
Et donc tu disais qu'elle s'était quand même un petit peu vendue, est-ce que tu as des retours déjà un petit peu sur cette méthode?
Ah, les retours sont super, moi je suis vraiment rassuré par rapport à beaucoup de choses, puisque là je me lançais dans le vide, personne avant vous a fait quelque chose, vous n'êtes pas trop sûr d'avoir réussi tout coup, et apparemment j'ai tellement pris de précautions et pris mon temps pour le faire, mais quand même 22 ans, et puis c'est vrai que je me suis entouré pour des conseils, à la fois de scientifiques, de grands professeurs de guitare également, toutes les personnes qui ont pu m'aider là, m'ont évité de faire des bêtises. Je pense à un en particulier qui est un grand spécialiste de l'acoustique musicale. Il s'appelle Charles Benenou, qui était c'est un des grands spécialistes français de l'acoustique musicale. Il est maintenant à la retraite, mais comme tous les retraités de ce niveau-là, il continue de travailler comme des fous et de faire des choses fantastiques. Mais voilà. Ouais. Lui, il m'a dit, par exemple, j'avais commencé, le début de ma méthode concernait le son, ce qui me paraît la dimension la plus profonde de la musique. Et finalement, il m'a corrigé. Et puis, au bout d'un moment, au téléphone, je lui ai dit, finalement, tu me corriges tellement, que tu enlèves tellement, que est-ce que ça vaut vraiment le coup que je mette, il vaut peut-être mieux que je raye tout le chapitre. Et il ne m'a pas dit non, donc j'ai compris que ça valait le coup. Donc je l'ai rayé, parce que je n'avais pas les compétences strictes pour le faire. Donc j'ai éliminé tout ce qui était de cet ordre-là. Du coup, les retours sont excellents, parce qu'à la fois on me dit, c'est bien présenté, c'est costaud, c'est solide, c'est pratique, parce qu'il y a des problèmes après. Les partitions, quand on les a dans un livre, on ne peut pas les mettre à plat. Donc j'ai décidé de passer par un système de reliure à ressort, comme on dit, bon, qui font un peu plus cheap, entre guillemets, mais en réalité, il y en a de très belles aujourd'hui. Et ça permet d'avoir vraiment la partition à plat. Donc j'ai fait ce choix, qui était un peu risqué, choix gagné, parce que tout le monde me dit, t'as bien fait. Tous les guitaristes me disent, t'as bien fait. Sur le plan strictement pédagogique, c'est évident que ça fonctionne, parce que là, tous ceux qui l'achètent me disent, écoute, j'ai une autre vision de la guitare 12 cordes maintenant, j'ai compris comment ça marche, ok, on y va. Et donc je suis en train, mine de rien, de former une petite génération de 12 cordistes français et un peu étrangers parfois à jouer avec ces techniques spécifiques qui permettent d'exploiter vraiment complètement l'instrument. Donc oui, les retours sont vraiment très bons. Moi, je suis très content et je suis rassuré et très content.
Voilà pour le bilan des choses un peu précédentes. Oui. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un concert quand même. Alors ça, on peut en parler.
Je vais jouer le mardi 9 juillet prochain dans un lieu superbe qui est le Temple de Poney. Ce sera à 18h30, hein, fin d'après-midi. Donc le 9, mardi 9, au Temple de Poney. Le Temple de Poney, c'est un tout petit temple. Alors là, c'est difficile à dire, mais il y a des lieux comme ça où on se sent bien spontanément. et je crois que tout le monde est plus ou moins sensible à ça. C'est pareil, c'est une sensibilité qui nous a été un petit peu, bah, qu'on a un petit peu érodé dans ces derniers siècles peut-être, mais on a quand même ça. On va bien, on entre dans une maison parfois, ah, on se sent bien, on ne sait pas très bien pourquoi, on n'y pense pas forcément d'ailleurs, mais on est spontanément bien dedans. Et les temples, évidemment, et les églises ont été construits sur des endroits choisis par des gens qui peut-être nous ont précédés de 1000, 2000 ou 3000 ans, voire plus, puisqu'en fait, les églises ont été bâties sur des lieux de culte préhistoriques,
oui,
pour voilà. Beaucoup d'entre eux.
Il y avait toujours une histoire quand même avant.
Voilà. Alors, et ce temple de Poney, là, il a dû être construit à un endroit tout à fait bien, puisqu'il y a peut-être des énergies telluriques qui passent au bon endroit, on y est bien. C'est un merveilleux lieu de concert.
Alors voilà, j'invite encore une fois les auditeurs à écouter un peu dans nos archives, parce qu'on a invité l'équipe des Amis du Temple de Poney, déjà.
Oui.
Voilà. Et qui ne sont pas revenus cette année, c'est bien dommage. Alors s'ils nous entendent, repassez donc.
Voilà, faire c'est l'occasion coucou. De repasser d'eux, de parler d'eux, c'est bien.
Et alors ce concert là, tu es tout seul.
Donc là c'est seul, donc seul avec quand même mes 5 guitares.
Mais enfin Michel, tu joues tout seul, c'est pas vrai?
Ça va pas, hein. C'est pareil cette histoire de jouer seul, je sais pas si je l'avais dit la dernière mission, mais quand je joue avec des amis, quand je joue avec mon ami tibétain, bon, c'est la relation humaine qui est forte et qui donne ce sel. Et les gens qui nous voient jouer, ils sentent cette relation, ils voient cette amitié et ils voient les petits clins d'œil qu'on se fait entre guillemets musicaux. Et ça, ils y sont sensibles. Donc c'est ça qui attire. La musique, à ce moment-là, c'est une musique d'amis, c'est une musique pour les amis. Lorsqu'on joue tout seul, on ne joue pas pour soi. On peut, mais on n'est pas obligé. On joue parce qu'on a envie de jouer, parce qu'il se passe quelque chose. Il y a cette énergie qui doit sortir. Et en réalité, on joue pour l'univers tout entier. Si c'est un brin d'herbe, ben c'est un brin d'herbe. Si c'est une vache, ben c'est une vache. On joue parce que ça doit être joué. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est encore plus ouvert d'un certain point de vue.
Et comment tu t'enchaînes justement? Comment tu te remotives tout seul, tu vois, face à un public, ce genre de choses?
Moi, je me vois comme une personne qui transforme des énergies qui sont déjà là. Un transformateur d'énergie. Et donc, je transforme, pour moi, c'est dans le sens note de musique. Bon. Donc ce sont des énergies qui me dépassent complètement.
Est-ce que tu as déjà joué dans des endroits avec des énergies pourries?
Oui, oui.
Et alors, tu jouais, tu
à ce moment-là,
tu
je
jouais, c'était dur, c'était rude comme musique.
Oui, non, ça peut influencer, je pense, ouais. Peut influencer. Mais je m'accroche justement, j'essaie de me concentrer. Par exemple, je suis dans le Diwa, avant le concert, les 5 minutes avant, je respire grand et je me concentre et je regarde les montagnes et j'essaie de prendre l'énergie de ces montagnes et de les diffuser dans le temple. Donc, si ça m'est arrivé, comme il y a un lieu où il y a une oubliette, il y a un lieu dans le coin où il y a une oubliette du temps de Louis XI, et finalement on passe sur cette oubliette avant d'aller sur la scène.
Ah, oh là là.
Et il y a une grille et c'est très profond, on voit pas le fond, et on peut pas ne pas s'empêcher de penser aux gens qui ont dû passer des années de leur vie là à péricliter au fond de ce trou, et on est là pour faire un concert juste là et pour faire du bonheur aux gens, donc et pour se donner aussi du bonheur à nous, et en fait il faut s'accrocher à ce moment-là aux énergies plus fortes qu'il y a.
Et peut-être d'ailleurs qu'ils en ont laissé un peu au fond de l'oubliette. Pourquoi pas, on peut jouer pour eux aussi.
Mais bien sûr, de toute façon, on pense à... J'ai fait tout le concert en pensant à eux, mais ils étaient en filigrane quelque part. Donc je ne peux pas dire que ça ne m'est pas influencé. Hein, ça.
Ouais. Et tu as déjà joué dans des lieux qui ont des énergies a priori, on va dire, un peu négatives, mais qui sont toujours en activité. Je pense à des prisons, à des endroits assez glauques comme
vrai. C'est vrai que dans ces lieux-là, il y a une humanité fantastique qui se découvre,
en fait.
Aussi. Par exemple, j'ai ce souvenir d'avoir joué et fait un stage auprès de guitaristes prisonniers dans la plus grosse centrale française, en fait, donc les plus longues peines. Et j'ai été vraiment marqué parce que, en fait, il y avait un type qui, je raconte ça, mais qui avait bien, il avait 65 ans, 68 ans, il en faisait encore plus. Bon banjoïste dans sa jeunesse, il avait toujours continué de jouer du banjo plus ou moins comme il pouvait en prison. il ne pouvait pas toujours. Et puis, il était tellement désespéré à un moment donné dans sa vie qu'il s'est immolé par le feu. Et il a survécu à ça. Seulement, il a perdu l'usage de ses mains qu'il avait avant. Ouais. Il ne pouvait plus jouer de banjo. Et il se remettait avec une énergie absolument incroyable, dans ses conditions, dans sa cellule, à essayer d'apprendre la guitare en devenant gaucher, parce que ça pouvait marcher un petit peu mieux pour lui, alors qu'il était droitier de base. Et quand on voit quelqu'un qui dépense une telle énergie, quand on voit la force de l'énergie de vie, ce qu'elle représente à travers des gens comme eux, on est tellement admiratif que, évidemment, il y a la prison, et c'est justement la prison qui force peut-être ce trait, mais il n'empêche qu'il y a des choses humainement extrêmement positif qui se passe aussi là. Ce type, il force l'admiration. C'est une volonté absolument extraordinaire. Et il n'était pas le seul. Hein. Les deux, trois autres qu'il y avait autour, ils avaient vécu des choses. C'était des longues peines. Hein. On sentait qu'ils vivaient quelque chose d'extrêmement fort. Et évidemment, quand on intervient, nous musiciens, qu'on arrive là-dedans, c'est des moments très forts aussi pour nous. Hein. Pour eux et pour nous. Donc, ouais. Non, il se passe des bonnes choses aussi. Il n'y a pas que des... Il y a de tout, mais il n'y a pas que des mauvaises énergies. Voilà. Les bonnes l'emportent sur les mauvaises, c'est toujours la même histoire, mais, ouais, mais voilà.
On peut l'espérer, même dans ces lieux.
Oui, absolument. Ouais.
Et alors, donc, je te coupais sur cette prestation au temple de Pontet.
Oui.
Alors, donc, tu commençais guitare, donc tu auras la 6 cordes, la 12.
Cordes, oui. Donc, 5 guitares, une 6 cordes.
5 guitares, très guitares, bien.
Celle que je viens de jouer, là. Et puis, la 12 cordes que je jouerai tout à l'heure. Une deuxième 12 cordes parce qu'elle est accordée autrement et je ne voudrais pas faire patienter mon public trop longtemps pendant l'accordage parce que la 12 cordes, il faut accorder 12 cordes. Et puis, une 10 cordes que j'ai indianisée, c'est-à-dire qui sonne un petit peu comme le sitar de l'Inde. Ah, je dis bien un petit peu, parce que si ça sonnait vraiment comme le sitar, ça n'aurait aucun intérêt. Cette guitare, je l'ai fait faire après un séjour en Inde, il y a une vingtaine d'années. Et je l'ai moi-même finie, en réalité. Et puis, il y a une dernière guitare, qui est une guitare qui possède deux manches, qui, elle, se rapproche encore plus du son de l'Inde, un peu plus encore du son du sitar indien, avec des cordes sympathiques. Le deuxième manche porte des cordes sympathiques, c'est-à-dire des cordes qui vont résonner lorsqu'on fait résonner d'autres cordes. Si vous faites sonner une corde qui est en do, et puis vous en avez une autre qui est accordée en do, si vous n'y touchez pas à cette deuxième, elle va sonner quand même toute seule. Donc c'est la résonance par sympathie. Et ce manche porte 18 cordes sympathiques qui vont donner une sorte de résonance un peu cathédrale. Donc je vais faire venir une guitare au son de cathédrale dans une petite chapelle au temple de Pontet, pardon. Alors, qui est tout petit, mais ça ira très bien.
On disait déjà que la 12 cordes, c'était presque déjà un orchestre à elle toute seule. Alors donc la 12 cordes plus 18 sympathiques, non, enfin...
C'est un peu une folie, hein, c'est vrai, ouais. C'est vrai.
Donc
c'est
là, c'est l'orchestre amplifié.
Il y a quelque chose, c'est jamais fini ces recherches, ouais. Mais j'aimerais bien encore rajouter des cordes basses, tout pour dire. Cet instrument-là produit un son qui est impressionnant.
Et pour qu'on comprenne, tu joues que sur un manche et l'autre résonne, voilà. Tout le temps.
C'est ça. Voilà. Avec plus ou moins de force, mais il résonne tout le temps, il est là, effectivement, et on l'entend.
Et tu joues jamais dessus.
Non, je ne joue jamais dessus. Non.
Et alors, est-ce que les cordes sont différentes? C'est parce qu'elles puisqu'elles sont sympathiques, enfin, je veux dire, elles résonnent parce qu'elles sont différentes au niveau matière, etc.
Non, c'est pas ça. Elles vont. Leur rôle, c'est de prolonger le son de la note que j'ai jouée. Je vais faire un ting, et puis je vais avoir l'autre note qui va faire. Et pendant qu'elle fait. Moi, ting, ting, j'ai comme un accompagnement en même temps que la mélodie.
Mais il n'y a qu'une corde qui va résonner en fonction d'une autre ou
pas forcément. Toutes, mais certaines. Alors sur certaines cordes, sur certaines notes, il va y avoir deux cordes qui vont résonner. Sur d'autres, il va y avoir trois ou quatre. Donc c'est compliqué, c'est complexe. C'est le son global qui se met à changer globalement. C'est un instrument qui change de son finalement, puisque les cordes sympathiques vont créer un timbre. S'il y en a deux qui sonnent, ça va créer un certain type de timbre. S'il y en a cinq, ça va donner un autre timbre. Et donc selon les notes que je vais jouer sur mon manche normal, ma guitare va changer de timbre en cours de jeu. Et c'est là la grande richesse des instruments de l'Inde, hein, c'est qu'ils jouent énormément sur le timbre de leurs instruments. Ils modifient le timbre de leurs instruments en jouant. C'est une liberté là qu'on nous en a perdu lorsqu'on a voulu faire de la musique symphonique. Mais on a gagné d'autres choses, bien sûr.
En parlant de ces inventions de guitare un peu étonnantes, est-ce que tu en as d'autres comme ça?
Il y a toutes sortes de tentatives faites par des luthiers. Là aussi, il y a la créativité qui joue. Vous aurez des luthiers qui vont vous dire « Mais non, la guitare, bon, ça se fait comme ça. » Ils font toujours toute leur vie le même modèle. Puis il y en a qui, au bout d'un moment, s'ennuient ou qui, dès le début, ont un esprit à chercher et à poser des questions et à embêter les gens autour d'eux pour savoir comment ça marche. Et ces gens font des recherches, bien sûr, et y a des choses incroyables qui existent. Des guitares, je crois que j'en avais parlé une fois, une guitare qui change de table d'harmonie. C'est-à-dire que la table d'harmonie, c'est la planche qu'on voit quand on est en face du guitariste. C'est celle où il y a le trou, c'est celle qui fait sonner le plus, c'est celle qui compte le plus pour le son de la guitare. Et lui, il a dit, bon, puisque c'est ça qui compte le plus pour faire sonner la guitare, lorsque je voudrais jouer du banjo, comment je vais faire? Je vais enlever la table d'harmonie, je vais faire une table d'harmonie amovible, ça il fallait quand même l'inventer, parce que normalement c'est collé et bien installé, et puis je vais changer, je vais mettre une table de banjo, je vais mettre une table de guitare jazz, une table de guitare classique, et ça va changer effectivement le timbre de la guitare. Donc il a 4-5 guitares en une seule. Alors maintenant, quand il prend la table du banjo, on n'a pas le son exact du banjo, donc on est dans un compromis là aussi. Mais voilà, un gars qui cherche quelque chose. J'avais parlé d'un autre qui est français et qui, s'est vraiment intéressé au travail des scientifiques sur la résonance des instruments à cordes et en particulier la guitare. Il a tenu compte des éléments rigoureusement scientifiques pour essayer de faire sonner mieux le bois et faire sonner mieux la guitare. Et il y arrive tellement bien que la guitare sonne plus fort et plus que toutes les autres guitares du monde. Je dis bien toutes, celles que j'ai pu essayer, et puis je ne suis pas le seul, on se rend bien compte qu'il y a là quelque chose de tout à fait nouveau. Il y a 6 guitares et puis les autres. On a l'impression que toutes les autres guitares à côté des siennes sont bridées, et donc qu'elles sont bridées, que le son est trop dans la caisse et qu'il n'arrive pas à sortir comme il voudrait. Donc lui, il a réussi ça, cette gageure extraordinaire, de faire sortir le son au maximum. Sauf que, du coup, le son, il est un peu monotimbré, c'est-à-dire que ça va être le son du bois, juste le son du bois, mais il ne va pas beaucoup changer. Donc pour arriver à le faire changer, à modifier le son de temps en temps, que le guitariste puisse avoir une réponse à sa musicalité, il faut effectivement certainement brider un petit peu dans un sens ou dans l'autre. Et là, je pense qu'il est sur un travail de chercher comment brider un minimum pour avoir tel type de son ou tel autre. Donc c'est un chercheur qui a trouvé ça. Et c'est pas fini. On est dans une période actuellement où il se passe beaucoup de choses sur le plan de la lutherie guitare dans le monde entier. Il y a une grande évolution. Et donc, les inventeurs sont là. Alors évidemment, il y a beaucoup d'impasses. Hein, quand on cherche quelque chose, des fois, on se plante. Mais dans l'ensemble, la lutherie guitare est en train d'évoluer très rapidement en ce moment, de façon très intéressante.
Et toi, tu y participes à ça, par exemple, en tant que musicien ?
Est-ce
que
complètement.
Tu balances tes idées comme ça en disant « Tiens, moi, je voudrais bien... »
Comme je suis quelqu'un de très passionné par le son depuis le départ, les luthiers m'ont repéré parce qu'ils savent que quand je joue leur guitare, je vais tirer tous les sons possibles et imaginables. Et effectivement, je donne des remarques, ils écoutent et ils en tiennent compte. Je ne suis pas le seul, mais c'est passionnant d'ailleurs de travailler comme ça. C'est une sorte d'aller-retour. Il y en a un qui va me fabriquer une guitare gratuitement pour que je la teste, que je lui donne un son, parce qu'il faut quand même un peu de temps pour qu'elle vieillisse, entre guillemets. C'est comme un vin, certains vins. Il faut quand même, un ou deux ans pour qu'elle prenne un peu son son.
Un rodage, quoi.
Un rodage, c'est ça. Et là, après, elle devient plus puissante et elle devient plus ronde. plus de chaleur dans le son. Là, j'en ai trois que j'ai pas payé. Qui sont des guitares. Il y en a une qui est de Jean-Pierre Favino, qui est un luthier qui habite dans les Pyrénées. C'est une guitare 6 cordes. C'est un prototype. Ça fait 4 ans que je l'ai. Et il me dit, tu me la rends quand tu voudras, mais il y a pas d'urgence, etc. Mais il voudrait l'entendre. Il veut entendre comment, au bout de quelques années, ça fait 4 ans que je l'ai. Ouais, c'est ça. Comment elle va sonner? Quelle rondeur elle a pris? Donc, je suis un peu essayeur de ce point de vue-là. Puis je vais lui rendre. Et Maurice Dupont également, lui qui est installé à Cognac, fabrique des guitares de toutes sortes et il m'en a laissé deux, une 12 cordes. Et pareil, c'était ses premières 12 cordes, il voulait avoir mon avis sur ça et je lui ai donné. D'ailleurs, c'est pas fini, on est toujours en train de travailler sur un autre modèle. Il a aussi essayé d'imiter ma guitare indienne, donc je lui ai prêté ma guitare qui sonne à l'indienne, ma guitare à un seul manche cette fois, et il a fait un chevalet qui permet de faire sonner la guitare comme ça. Il a essayé de fabriquer un modèle comme ça de guitare qui va sonner un peu comme un sitar. Donc je suis en train de le tester en ce moment et je vais revenir le voir là dans une dizaine de jours pour lui donner mon avis, pour lui dire ça serait mieux de chercher dans ce sens-là, et ça c'est vachement bien, ça c'est un petit peu moins, on peut faire mieux, etc. Mais déjà, ce qu'ils ont fait, c'est vachement bien.
Donc c'est voilà. Cool ça d'être testeur aussi, ça change complètement l'approche.
C'est génial, c'est pareil, il y a une luthière de Grenoble qui a fait, qui essayait de mettre des cordes sympathiques aussi sur sa guitare, mais selon un autre système que le mien. Et en fait, elle arrive drôlement bien, mais alors on a mélangé nos expériences. Elle arrivait à avoir un son très très puissant de cordes sympathiques, mais pas très long, pas très durable, pas beaucoup de sustain. Et moi, j'ai des cordes sympathiques qui ne sont pas pas très puissantes, pas assez à mon goût, je voudrais bien qu'elles sonnent plus, mais elles ont un sustain formidable. Donc on a mélangé nos deux expériences, et oui, non, c'est génial, parce qu'il y a des choses qui, comme ça, un va trouver quelque chose, l'autre, il y a un travail qui se fait en commun, il y a une émulation qui se fait également, et donc tout ça, ça fait partie d'un tout, quoi.
Et tu parlais de l'âge des guitares pour qu'elles se bonifient. Oui. Alors tes cinq guitares, elles ont un certain âge.
Oui, elles commencent à avoir certaines d'entre elles un âge certain. Même, y en a une qui est de 1975, c'est la six cordes que j'ai jouée là. Pour l'instant, elles sonnent toujours bien.
Et donc tu l'as vu évoluer là quand même dans toutes ces années-là. Là.
Ah oui, absolument.
Est-ce que tu penses qu'elle va atteindre un moment donné ou non, elle sonnera plus correctement?
C'est ce que me dit. Alors là, il y a deux théories.
Est-ce qu'une guitare meurt?
Voilà, il y a des luthiers qui pensent, mais je pense qu'ils ont raison sûrement, qu'au bout d'un moment, elle finit par se fatiguer. C'est-à-dire que
le bois,
c'est ouais, ça. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le travail des fibres du bois qui se fait pendant la vie de l'instrument. Quand l'instrument est neuf, le bois est un peu vert. Il n'est pas encore fixé tout à fait. Et donc, selon la façon dont vous allez jouer votre instrument, que ce soit un violon ou une guitare, vous allez imprimer des vibrations de tel type de musique à la façon de sécher qu'ont les fibres à l'intérieur du bois. Donc, elles vont sécher en fonction de comment vous jouez.
C'est-à-dire que si tu jouais du rock, des gros riffs, elles vibreraient de telle manière.
C'est ça. Et c'est ça, au bout de 10 ans, au bout de 5 ou 10 ans, elle serait super bonne pour ça, mais pas trop bonne pour le reste.
Pour le reste.
Et si tu joues plutôt guitare folk, bah, ça va être excellent pour le folk, mais alors en rock, ça ne va pas faire. Donc effectivement, l'instrument se bonifie à la fois en puissance et en rondeur, ça c'est pour tout le monde. Et puis en fonction de chaque jeu, de chaque musicien, il va prendre plutôt tel type de son ou tel autre type de son.
Donc on ne prête pas sa guitare.
Donc on ne prête pas sa guitare si facilement. Moi je la prête parfois à des gens dont je me sens proche. Mais je reste à côté, je lui demande qu'il se lave les mains comme je fais moi-même avant de toucher l'instrument. Parce que j'use mes cordes sinon trop vite. Et que 12 cordes à changer, ça revient cher parce que j'ai 5 guitares, etc. Vous voyez, c'est très pratique. Oui, oui. Très, très pratique.
Oui, mais... car se laver les mains, ce n'est pas pour pas qu'on pue des doigts dessus, mais
non.
C'est pour la sueur qui va abîmer la.
Alors, heureusement que j'explique, c'est ça. J'étais en train d'oublier parce que c'est très important. C'est ça qui est.
La sueur abîme le métaux ou les plastiques.
Voilà. C'est-à-dire que ça va faire rouiller un petit peu une partie de la corde et donc elle ne va plus sonner du tout. Elle va perdre ses aigus en particulier.
Ouais. Et casser.
Est cassé au bout d'un moment. Donc un instrument se bonifie clairement avec le temps. Certains se bonifient très vite, d'autres moins bien. Je parle des instruments de luthier, hein, des bons instruments, parce que ce n'est pas le cas des autres. Je dirai un petit mot là-dessus après. Par contre, au bout d'un certain temps, bah, les fibres sont quand même bien sèches. Et à ce moment-là, bah, il évolue moins, et voire même il a tendance à devenir un peu sourd, un peu perdre un peu sa brillance. Et son élasticité, du coup, il perd son élasticité, donc il perd sa réactivité. Donc ça, elle va projeter moins loin, elle va perdre peut-être de la puissance. Je ne sais pas si ça a été théorisé par les scientifiques, hein, mais ce qui est clair, c'est que la plupart des luthiers pensent ça. Alors après, il y a deux
sortes... Et toi, en tant que musicien, est-ce que tu l'entends, cette chose?
Je pense. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que là, j'ai l'exemple idéal pour moi, c'est la 12 cordes que j'ai, qui est de Jean-Pierre Favino, qui est une guitare qu'il avait fabriquée à ma demande, ma demande sonore. Il avait compris quel type de chant je cherchais. Et quand il l'a fabriquée, et que je l'ai essayée pour la première fois, je me suis rendu compte qu'elle avait encore un plus beau son que ce que je rêvais. Et là, j'ai vécu quelque chose de fantastique. Ça a duré, il m'a dit, la table d'harmonie étant déjà bien correctement séchée, 40 ans quand même de séchage, ce qui est idéal quand même, on va dire séchage, mais ce n'est pas un séchage complet, c'est ça.
Oui, oui.
Mais 40 ans ne sont pas trop, avant même de faire l'instrument. Mais elle a un inconvénient, c'est qu'elle va mettre plutôt 10 ans avant de prendre son plein essor, plutôt que 5 d'habitude. Donc ça dépend un peu des types de bois aussi qui sont posés. Donc j'ai vu pendant 10 ans ma guitare augmenter en puissance, en finesse, j'arrivais à exprimer de plus en plus de musicalité avec, c'était fantastique. Et après, les années ont passé, mais le problème, c'est que c'est comme votre enfant, vous ne le voyez pas grandir. Comme c'est chaque jour, alors je...
Là, tout d'un coup, elle a 18 ans et tu...
Alors elle est de 81, elle est de 81, ma guitare, là. Et donc, il est possible quand même qu'au bout de toutes ces années, j'ai un luthier là, qui est très sympa, qui habite pas très loin, qui est Thomas Féjose. Je parle de lui parce qu'il est, à côté de Valence et c'est un des meilleurs luthiers français actuels. Donc, si vous avez envie de vous acheter une super guitare, il ne faut pas aller loin, là, vous êtes sur place. Il n'y a pas que lui, il y a Franck Cheval aussi dans le coin, à Romans. Mais donc, Thomas Féjose, ça s'écrit F-E-J-O-Z, qui est un type très sympa. Lui, il me dit, ta guitare, ça y est, hein, elle a... ça y est, elle commence à être un peu vieillie là.
Il faudrait
peut-être en acheter une autre.
Ah ouais.
Et en plus, il a un argument parce qu'il a lui-même une 12 cordes qui sonne magnifiquement. Et effectivement, je vois la différence. Donc il y a quand même effectivement un phénomène de vieillissement qui doit se produire. Pour terminer, pour clore cette. Si vous achetez des guitares japonaises ou chinoises, très bon marché, pas de luthier mais de industriel, on va dire. Souvent, ces guitares-là ont du bois qui n'est pas suffisamment séché quand même avant la fabrication. Ce qui fait que ça bouge énormément pendant la première année ou les deux premières années, tellement que quelquefois il y a des choses qui se décollent ou que, même si ça ne se voit pas, ça s'entend à l'oreille. Ce sont souvent des guitares qui sont très brillantes au début, qui sont très qui ont un super son au départ, qui vont concurrencer des guitares qui valent 5 fois plus cher. Et puis au bout d'un an, plouf, elles deviennent sourdes, ça ne vaut plus rien. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez vous acheter des guitares pas chères, achetez des guitares d'occasion, n'achetez pas des guitares neuves, surtout pas. Achetez des guitares d'occasion parce qu'au bout d'un an ou deux, si elles ne sont pas sourdes, alors c'est bon, elles vont pouvoir continuer.
Alors avis à tous les guitaristes ou futurs guitaristes, c'est bien parce qu'avec toi on en profite pour parler d'un concert, etc. le 9 juillet, mais en même temps on va plus loin. Sur ces 6 cordes que tu nous as fait en introduction, en écoutant comme ça et en me laissant glisser, je me suis posé cette question. Est-ce que tu sais combien de notes tu joues à la seconde, à la minute ?
Non.
Non, alors parler de mathématiques, personne ne s'est amusé à calculer.
Ça a dû se faire, mais...
Non mais sur toi ?
Non mais tu sais, c'est comment dire...
Bon les chiffres, ce serait pas impressionnant.
Ça fait 40 ans que je joue la guitare, enfin plus que ça même. Et donc quelqu'un qui conduit une voiture depuis 40 ans, une voiture, on va dire une voiture normale, eh bien... Il a des tels réflexes d'une telle précision, il a aussi des mouvements d'une telle précision, d'une telle coordination, que ça pourrait être très impressionnant pour un gamin de 17 ans qui n'a jamais touché de bagnole. Et donc, je crois que c'est un peu le même phénomène. C'est-à-dire que j'ai passé tellement d'heures. On est comme les paysans, nous, hein, on ne compte pas nos heures et il n'y a pas de dimanche. Donc, on y va, il faut qu'on joue, sinon on perd le niveau technique. Donc, on joue tous les jours et puis... Et puis finalement, on ne se rend plus compte, mais on affine. Et au bout de 40 ans d'affinage, comment voulez-vous ne pas impressionner les autres ? Si ce n'était pas impressionnant pour quelqu'un qui n'avait pas travaillé ça, ce serait catastrophique.
Ce serait dommage.
Ce serait dommage aussi, oui.
Alors Michel Gentil en concert le 9 juillet au temple
de Poney
Saint-Auban. Voilà. On n'a pas précisé l'heure, je crois.
Si, mais 18h30. C'est bien de le redire parce que ce n'est pas un concert de soirée. Bon, j'ai choisi ce moment-là en me disant, il y a les vacanciers qui auront déjà passé une partie d'après-midi et puis qui auront peut-être envie de passer un petit moment tranquille, un petit moment agréable. Et puis, il y a les gens qui travaillent de la région qui, eux, bossent sous quelquefois jusqu'à 18h. Et ils ont donc le temps de venir et de faire même de venir avec leurs enfants s'ils ont envie, puisque c'est tout à fait ouvert aux enfants, il n'y a pas de problème. Hein. Avec une seule réserve, c'est que si vous avez vraiment des bébés qui peuvent se mettre à pleurer quand même à un moment ou à un autre, restez pas très loin du fond, mais rassurez-vous, le fond il est tout près de la scène parce que c'est tout petit. Restez pas loin du fond, puis sortez au moment où le bébé pleure, mais et puis dès qu'il a fini de pleurer, vous le ramenez. Mais c'est la seule réserve parce que ça peut déranger d'autres gens. Moi j'ai remarqué que, je le disais une fois dans une émission, les bébés ils pleurent toujours dans la tonalité de la musique. Hein, donc,
oui, ça c'est vrai.
Donc ils gênent pas forcément, faut pas trop s'inquiéter. Et puis des enfants très jeunes.
Tu veux dire, ils ne gênent pas forcément le musicien.
Exact, et les autres gens. Enfin, les autres gens se laissent facilement. Le musicien il a plus l'habitude, donc il est moins gêné après. A priori, que les gens qui viennent au concert, qui eux peuvent être dérangés plus facilement par un détail, un flash ou quelque chose. Moi, les flashs ne me dérangent jamais, parce que je m'y suis habitué. Je reste dans ma concentration. Un bébé qui pleure, il va rarement me déranger. Ça peut arriver quand ça prend vraiment des proportions que la musique ne s'entend plus trop. Mais d'une manière générale, les bruits ne sont pas forcément dérangeants lorsqu'ils sont dans la musique. C'est comme quand je jouais dans les cabarets américains de San Francisco et de Berkeley en 1975. Les gens, ils viennent, ils boivent une bière, ils sont là, décontractent, ils boivent leur bière, ils font un petit peu de bruit, quoi. Si vous jouez bien, alors là, ils écoutent, mais à fond. Ils vont vraiment vous écouter à fond, même s'ils ont bu leur bière. Hein. Et puis, si vous commencez à décrocher, ils vous disent, attention, ça décroche, là. Donc, en fait, vous jouez devant des gens, il y a un peu de bruit. Il y a un peu de bruit qui est là, mais vous pouvez jouer extrêmement fin parce que vous sentez bien que ce bruit, il est avec vous, il n'est pas contre vous. C'est un bruit qui fait partie même de la musique. Et donc, à ce moment-là, ce n'est pas dérangeant.
Alors, allons plus loin. Qu'est-ce qui te dérangerait, toi, pour jouer ? qu'est-ce qui peut te faire sortir de cette concentration ?
Écoute, je cherche des situations où j'ai pu être déconcentré. Bon, il y a un orage, pouf, plus de courant. Donc 500 personnes, moi tout seul avec la guitare acoustique. Bon, j'ai tout simplement continué, hein, j'ai continué mon morceau. Et puis j'ai dit un petit mot gentil pour les gens, pour les rassurer, parce qu'ils étaient tout dans le noir. On était complètement dans le noir total. Et dans une salle de 500, c'est quand même beaucoup. Il peut y avoir une personne qui se met à crier. Et en fait, non. Le fait de jouer, de continuer de jouer, j'ai calmé le jeu, c'est le cas de le dire. Et puis l'électricité est revenue quelques minutes plus tard. Mais ça a été toujours, ça a été long. Non, il y a d'autres choses. Non, je vais raconter une qui va faire rire tout le monde.
Oui.
J'étais à l'Alpe d'Huez. Ça date d'au moins 30 ans. Je jouais dans une station de ski l'hiver. Et je joue de la guimbarde aussi dans mes concerts. Alors,
oui.
Alors la guimbarde, je suis debout. Et la guitare, je suis assis. Et j'avais un problème de braguette qui s'ouvrait un peu facilement. J'étais assis pendant tout mon concert, il n'y avait pas de problème. Il y a un moment où je me suis levé pour jouer la guimbarde, et j'ai vu les regards descendre d'un mètre. Et là, ça m'a déconcentré quand même. Là j'ai fermé ma braguette devant tout le monde et j'ai rigolé. Tout le monde a rigolé. Et le concert était super sympa derrière. Il n'y a pas eu de problème. Donc ça, bon. Mais non, qu'est-ce qui peut me déconcentrer ? Il y a quelque chose qui me gêne souvent dans toutes les salles de spectacle, sans exception. C'est le bruit des moteurs, des amplis, qui font un petit... permanent. Et ce bruit, étant donné que je joue moi avec la dynamique maximale de ce que je peux obtenir, c'est-à-dire du silence complet jusqu'au plus gros bruit que je peux faire sur une guitare, je me rends compte que du côté du plus faible, là où je joue le plus doucement, le plus faible possible, je suis moins fort que le bruit de mes amplis, des amplis de la salle qui me sonorisent. Donc ça signifie que les fabricants d'amplis ne s'intéressent pas suffisamment à cette question, parce que les musiciens ne leur ont pas trop demandé non plus. Ça veut dire que beaucoup de musiciens se contentent de jouer
fort.
à partir disons, d'un certain niveau.
Ouais.
Pas forcément fort, mais en dessous de ce niveau-là, ils font pas de musique, quoi.
Ouais.
Donc c'est une limite, c'est une limitation que moi je regrette, mais moi je le regrette avec mes oreilles de musicien passionné par le son. Et je vois bien que c'est pas le cas d'une majorité de gens autour de nous. Le son est une dimension de la vie qui n'intéresse pas tant que ça nos contemporains, malheureusement.
C'est
dommage,
vrai, finalement, hein. La musique est pas
c'est
si...
Dommage.
Elle est universelle, mais elle n'est pas tant plébiscitée. Hein. Vu le nombre de merde que les gens écoutent, d'ailleurs.
Bah, et particulièrement
ça, c'est
en France.
Pour moi. Oui,
particulièrement en France, non, mais pour toi et pour moi aussi.
Ah, oui.
Il suffit, c'est pas compliqué. Il suffit d'aller. Vous prenez votre voiture, vous arrivez jusqu'à 20 km de la Belgique, vous commencez, ou même 50, vous commencez à entendre les radios allemandes, anglaises, belges, hollandaises, et vous vous dites: ah tiens, il y a de la bonne musique. Allez, bonne musique country, là, tiens, je vais écouter ça. Ah tiens, il y a du bon rock, là. Ah tiens, il y a un super chanteur. Là. Bon, mais il faut arriver à l'étranger, c'est pas en France qu'on entend ça.
Ou sur RDY.
Oui, alors RDY, c'est l'exception. Et non, mais tu as raison, et il faut le dire, bravo à vous là-dessus, parce que vous faites très 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 fort. Pour moi, Radio DIY, c'était la petite radio locale, et en fait, j'ai compris lorsque, sur mon site internet, j'ai vu que cette émission, j'avais un commentaire d'une radio qui venait d'Alaska sur l'émission que j'ai faite. Donc, effectivement, je me suis rendu compte là que vous avez une popularité sur le plan de la musique qui est tout à fait exceptionnelle pour une radio,
ah
et
bah.
Qui dépasse largement nos frontières. Et pas, je parle pas des frontières du DIY, je parle des frontières de la France.
De la France.
Mais bon, des radios comme ça, il faut des passionnés comme vous pour les faire. Faut tenir le coup, c'est pas évident. Vous êtes pas énormément soutenu, enfin, vous l'êtes un peu quand même, heureusement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le paf français, c'est plutôt du gros boom, quoi. C'est du,
ouais.
c'est du paf boom tchak, quoi. C'est enfin, disons-le clairement, c'est de la merde, quoi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique qui de musiciens qui sont posés là et qui méritent tout simplement pas d'être sur place, quoi. Je veux dire, ils ont pas le niveau. Et par contre, il y a énormément de musiciens en France qui ont le niveau, qui n'y sont pas. Et quel dommage, quel gaspillage de talent. Et là-dessus, on est encore pire que les Belges, les Hollandais, les Allemands. C'est rare d'écouter vraiment de la vraiment bonne musique en France. C'est difficile, il faut la chercher. Vous zappez vos radios,
bon,
vous
radio,
entendez.
Ouais,
c'est, on s'en rend compte tout de suite. Hein. Vous passez d'une pub à de la musique Coca-Cola ou à une grosse machine qui vient des États-Unis, qui propose un show qui va. Voilà, parce qu'il y a une tournée. Mais on n'est pas dans la créativité musicale, très peu, malheureusement, très, très, très peu. Et dans la vraie musique, en fait. Enfin, dans la musique. Respectable, qui est celle des gens qui cherchent, des musiciens, quoi. Je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent musiciens qui, pour moi, ne le sont tout simplement pas, quoi. Carrément, hein, je suis un peu dur, mais c'est la vérité, je pense.
C'est dit, c'est très bien.
Bon, tant pis, je le revendique comme ça.
Ouais. Non, mais... Et puis, ben, on est là pour ça aussi. Hein, alors, en plus, on vient de se faire. On a pris une belle éloge, merci.
Il fallait le faire parce que les gens ne le savent pas, et moi, je ne le savais pas du tout, hein, avant de faire l'émission. Donc, attention, les autres, quand vous viendrez faire des émissions avec eux, faites attention à ce que vous dites, hein, dites pas de bêtises.
Ou alors, livrez-vous complètement.
Ouais, il n'y a que ça.
Soyez entier.
Il n'y a que ça.
Allez, on revient sur ton concert et puis on se quitte avec un petit bout de 12 cordes.
Ouais. Voilà. Donc mon concert. Alors je vais aussi annoncer. Je vais annoncer le concert et puis j'ai un stage aussi cet été. Si ça ne t'embête pas, j'annonce. Donc le concert, c'est donc 18h30 mardi 9 juillet au Temple de Poney. Hein, donc là, je vous attends nombreux de tous âges et de toute culture. Et puis
entrée gratuite d'ailleurs. Entrée libre.
Non, alors c'est 10 euros. J'ai dit 10 euros. Très bien. J'ai mis 10 euros et 7 euros pour les groupes, les familles, pour les enfants en dessous de 6 ans, c'est gratuit. Mmh. Cela dit, ça se discute cette affaire. Il y a des amis qui me disent, pourquoi tu ne fais pas une entrée au chapeau une entrée. Alors, je suis un peu réservé là-dessus, j'en profite pour dire un tout petit mot. Parce que effectivement, on passe pas le chapeau pour le plombier, quoi. On est dans un vrai métier. Et ouais. Donc il y a en France particulièrement, je suis obligé de défendre ma profession. Et c'est dommage parce que j'ai moins à le faire à l'étranger. Hein. Et c'est pour ça que j'insiste, je le dis là-dessus. En France, on n'est pas bon.
Je suis obligé de défendre. On n'aime pas trop payer la culture, ouais.
Oui,
ou la musique.
Et l'artiste, c'est la cigale et la fourmi, c'est-à-dire elle s'amuse en fait. Et c'est vrai que c'est toute l'ambiguïté. Quand vous travaillez 8 heures par jour à faire un boulot qui ne vous amuse pas du tout, et vous voyez un artiste qui il s'amuse, il rigole, il s'éclate, entre guillemets, enfin s'éclate, ce n'est pas le bon mot, mais il s'amuse bien, vous avez tendance à vous dire, bon, bah alors. Mais on voit ce côté-là, qui est la partie émergée de l'iceberg, que le musicien a travaillé pendant des années et des années, comme un paysan, j'insiste, dans son champ, c'est le même truc, hein. Il est là, il se concentre, il essaie de faire bien et il n'y a personne autour de lui à ce moment-là. Et puis, sa vie de famille, c'est difficile. Donc, on fait des concessions quand même terribles pour arriver à une excellence. Donc, et cette excellence, elle n'est pas reconnue par la majorité des gens. Elle est reconnue par quelques personnes. Et on ne va pas demander au plombier qui bosse lui aussi si on va passer le chapeau, quoi. Ou on ne va pas lui dire, viens jouer dans mon restaurant, ça te fera de la pub. Je ne vais pas lui dire, viens chez moi réparer mon tuyau, ça te fera de la pub, je parlerai de toi et puis peut-être je te donnerai un peu d'argent si tu veux, mais vraiment, si tu insistes. C'est pas
dit
ça.
Comme ça, c'est bien dit.
Ça ne marche pas comme ça. On est dans un boulot, on est dans un métier. Alors après, on le fait du mieux qu'on peut et on a aussi nos défauts, nos qualités, mais on doit être respecté pour ce qu'on est, pas pour plus que ça non plus. Soit vous êtes sur un piédestal exagéré, vous êtes la star, on n'ose même plus vous parler, on vous prend pour quelqu'un, vous avez 15 filles qui vous tombent dans les bras et c'est, je vous le dis, parce que c'est comme ça que tout le monde sait que ça marche plus ou moins comme ça, enfin, qu'il y a ce phénomène. Et alors, c'est exagéré, c'est indu, c'est pas ça qu'on demande, c'est pas ça que je demande.
Pourquoi pas, mais enfin, pas de cette manière.
voilà, et de toute façon, c'est non. Et de l'autre côté, lorsque vous êtes descendu de scène, alors vous n'êtes plus rien, vous n'êtes même pas le plombier. Alors moi, je demande la reconnaissance quotidienne du plombier. C'est ce que je demande, à être reconnu comme quelqu'un d'aussi important qu'un plombier, mais tous les jours, pas simplement le jour où je fais le concert. Quand je suis en train de travailler, pareil, et ça, je ne l'ai pas en France, on ne l'a pas. Parce qu'on est encore sur la cigale et la fourmi. Quoi.
Ouais. Qui aurait soi-disant un talent inné que d'autres n'ont pas, et donc ce talent, c'est facile pour vous de
alors,
faire.
Alors, il y a ce lieu commun-là. Ouais. C'est un lieu commun, tu as tout à fait raison. On se dit, ouais, lui, de toute façon, il était fait pour la musique, il baigne dedans, c'est son truc, il est musicien. Voilà. Oh, il est un peu original, il est un peu spécial, il est musicien.
Il a le don.
Ouais. Tout est basé sur le don, et non, c'est pas vrai. On va dire 1% de don et 99% de travail, hein, quand même. Il ne faut pas galéger là.
Et ce pourcent de dons, pour rejoindre l'introduction de cette émission, que tout le monde a.
Que tout le monde a, absolument. Voilà. Absolument.
Alors après, juste le travail pour, pour la plupart.
Il est vrai. Moi, j'ai pensé que j'ai refusé l'idée de don. Je me disais, non, on est tous doués pareil. Et je crois que ce n'est pas vrai quand même. Je pense qu'effectivement, il y a des différences. Vous allez élever vos deux enfants pareil ou presque pareil. Enfin, ce n'est jamais pareil en réalité. Vous les verrez s'orienter différemment dans leur goût, dans leur don. Vous verrez qu'ils sont plus doués dans tel domaine. Donc, il y a effectivement, certainement, une différence de don. Ce que je crois, c'est qu'on est tous doués pour quelque chose. On est tous extrêmement doués pour un certain nombre de choses. Et après, notre difficulté, c'est de trouver ce pour quoi on est fait le mieux. Et donc, lorsqu'on arrive à trouver là où on est très doué et qu'on travaille après les 99% qui manquent, hein, puisque c'est que 1%, à ce moment-là, on peut arriver à une excellence. Tout le monde est doué pour beaucoup de choses, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et la dimension artistique, c'est tout simplement la dimension vivante, c'est la dimension de la vie. Être artiste, c'est chercher quelque chose. Or, vivre, c'est chercher. Si on arrête de chercher, on se pose. Si on se pose, bah, c'est dans le cercueil.
Allez, concert. Alors, le 9, le mardi 9 à 18h au Temple de Poney. mais
18h30.
18h30, pardon. Mais il faut venir à 18h pour prendre sa place.
Absolument, hein. Bien sûr. Ça va être booké, ouais, ça va être overbooké.
Voilà. Pour apprécier les 5 guitares de Michel Gentil et Michel Gentil.
Et 3 gabardes, et peut-être aussi une grande flûte slovaque qui s'appelle la Fujara, qui est une flûte assez extraordinaire, une flûte harmonique. On me le présente comme ça, donc je le répète, comme un voyage. C'est un voyage.
Oui.
On passe sans s'en rendre compte du blues au folk ou à la musique indienne ou à des touches un peu africaines et dans un même morceau parfois. Donc je le fais pas exprès, c'est un mélange qui se fait tout naturellement. Donc voilà, c'est une sorte de voyage. On m'a souvent dit le mot voyage, donc je le redis parce que je pense que c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
J'abonde.
Alors l'autre chose que je voulais annoncer, c'est voilà, j'organise un stage de guitare 6 et 12 cordes. Donc pour une fois, ce n'est pas que 12 cordes. Qui chez moi, à Minglon, avec une excellente cuisinière d'ailleurs, et qui aura lieu le 4, 5 et 6 août prochain. 4, 5, 6 août, c'est-à-dire dimanche, lundi, mardi, 4, 5, 6. Donc ouvert à tous ceux qui sont intéressés, disons, par la musicalité, pour la 6 cordes, la musicalité, le travail du son, justement. Il y a aussi un travail sur la notion de mode en musique traditionnelle, c'est-à-dire qu'on peut jouer modal sans être jazz. Et le jazz fait des très, très jolis modes, mais ce n'est pas le même sens du mot. D'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé dans une précédente émission. Après, il y a des techniques comme justement le capot partiel dont je parlais tout de suite, là, tout à l'heure. Il y a aussi le bottleneck, le e-bow, qui est un aimant qu'on glisse, enfin qu'on met au-dessus d'une corde et qui la fait vibrer sans qu'on y touche, ce qui est très surprenant à l'oreille parce qu'on ne distingue même plus que c'est une guitare.
Ça fait un bourdon.
Oui, c'est ça, ça. Et donc voilà, quelques techniques un petit peu comme ça. Et puis quand même beaucoup la musicalité, le son et puis la 12 cordes quand même. Voilà. Alors, 3 jours de stage.
Pour faire ce stage, on t'appelle directement ?
On m'appelle directement 06 11 02 49 30. On me trouve dans l'annuaire de Minglon aussi. Donc 06 11 02 49 30. Tout compris hébergement et nourriture, je demande 320 euros pour 3 jours. Ça ne me paraît pas excessif. Je ne cherche pas à m'adresser simplement aux gens qui ont des sous. Parce que je sais qu'en ce moment, il y a un peu de tout. Et donc, c'est normal. Moi, mon envie, c'est de partager ce que je fais. Puis j'essaye d'en vivre quand même, bien sûr. Et j'y arrive petitement, mais j'y arrive un peu à l'artisanal, on va dire.
Et pour terminer sur toi-même, est-ce que tu as une actualité, un album, quelque chose qui va sortir bientôt ?
Trop de choses, trop de projets que j'arrive pas. Alors, c'est compliqué. Non, mais si, je peux quand même dire. Je vais reprendre les tournées en Jeunesse Musicale de France des JMF, gros organisme qui organise des concerts pour les enfants dans toute la France.
Pour les écoles, etc.
Voilà, pour les écoles. C'est destiné aux écoles. Je vais reprendre des tournées. J'avais fait quelques années de tournées chez eux il y a une dizaine d'années avec mon ami Shamal Maitra, qui est un percussionniste indien avec qui j'aime beaucoup improviser. Et on va reprendre ces tournées. L'année prochaine, c'est-à-dire à partir de novembre. Et donc, on s'est décidé à faire un disque, ce qu'on n'a pas fait. On joue depuis 25 ans ensemble, on n'a pas de disque commun, c'est trop bête. Et donc, il y a un disque qui va sortir avant le mois de novembre, ça c'est sûr. Et sinon, moi, dans mon studio, la dernière fois que je suis venu, j'ai dit j'ai l'équivalent de 3 disques. Bah, maintenant, peux dire j'ai l'équivalent de 4.
Bon.
Et j'arrive pas à tout faire. La question du disque est compliquée aussi, puisqu'on en vend moins.
Oui.
C'est pas très rentable. On est obligé d'en faire pour avoir une carte de visite de musiciens qui continuent d'exister.
Et pour les radios aussi.
Et pour les radios aussi, ouais, c'est vrai, j'y pense pas. Mais voilà, donc faire des disques, c'est bien beau, mais il faut pouvoir les vendre.
Ouais.
Et on ne les vend que quand on fait des concerts. Donc je fais des concerts, ça va, donc je vais pouvoir quand même en sortir un. Je pense que je vais en sortir un aussi pour l'automne, un autre, qui sera un disque de moi seul. Et puis, il y a plein de projets, il y a plein. Voilà. Un peu de
allez,
guitare un peu,
allez, on se quitte en guitare. Donc, je leur dis une dernière fois.
Oui,
Michel,
oui.
Michel Gentil, donc le 9 au Temple de Pontet à partir de 18h30. De Poney,
De Poney.
Oh là là, au Temple de Poney. À force de répéter, on oublie.
Et oui, ben normal.
Allez, donc 12 cordes pour se quitter. Merci Michel et reviens quand tu veux.
Merci.